Voilà, donc comme je l'ai annoncé dimanche dernier, aujourd'hui j'aimerais prêcher un message que j'ai intitulé « Comment connaître la volonté de Dieu pour sa vie ?» Comment connaître la volonté de Dieu pour sa vie ? Alors c'est sûr que c'est une des questions la plus posée dans les milieux chrétiens aujourd'hui, mais comment est-ce que c'est possible de vraiment connaître la volonté de Dieu spécifique pour ma vie ? Alors bien sûr, la plupart de nous admettrions que Dieu doit bien avoir un plan pour notre vie. Il y a des versets qu'on aime sortir parfois, Jérémie 29, 11 qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous dites « Waouh, super, ça c'est un beau texte. Dieu a des projets pour moi, des projets de paix et un avenir plein d'espérance. Amen ? Amen, ouais d'accord. » Mais lesquels ? Ah ouais, mais lesquels ? Alors bien sûr, malgré cette très belle et merveilleuse vérité, beaucoup de chrétiens expérimentent une certaine difficulté à trouver cette volonté précise pour leur vie. Comment trouver cela ? Certains disent, ouais, c'est impossible de trouver la volonté de Dieu spécifique pour votre vie. Dieu, disent-ils, ne la révèle pas avec précision. D'autres disent que la volonté de Dieu est une chose qui se cherche pendant toute une vie. Et qu'avec le temps, on s'approche de plus en plus de cette volonté. D'autres encore disent que la volonté de Dieu se trouve par une expérience dramatique. Un jour, vous êtes en train de vous promener à Genève, sur la rue du tram, et tout d'un coup, peau de banane, vous glissez sur la peau de banane, vous tombez, et comme par hasard, vous avez le doigt qui tombe par terre, et comme par hasard, il y a un plan du monde, et votre doigt tombe sur l'Inde. Et vous dites, ah ben voilà, Dieu m'appelle en tant que missionnaire en Inde. Est-ce que c'est comme ça que Dieu nous appelle ? Y a-t-il une façon simple et pratique pour connaître la volonté de Dieu pour ma vie ? Voici quelques questions que vous êtes déjà peut-être posées. Quelle carrière professionnelle dois-je choisir pour ma vie ? Dieu aide-moi. Quelle école, quelle université dois-je choisir pour mes études? Voici la question de toutes les questions. Seigneur, quel époux ou quelle épouse devrais-je choisir et épouser? Seigneur, quel est l'homme ou quelle est la femme de ma vie? Seigneur, dois-je faire une formation biblique? Si oui, dans quel institut biblique aller ? Seigneur, devrais-je considérer une vocation pastorale ou pas ? Devrais-je devenir missionnaire ? Alors voilà les questions pratiques, voilà les questions auxquelles peut-être vous avez déjà réfléchi. Alors, n'y a-t-il pas une façon simple et pratique pour connaître la volonté de Dieu dans tous ces domaines spécifiques ? Eh bien, mes amis, la réponse est catégorique, elle est oui. Oui. En fait, dans les minutes à venir, vous allez découvrir quelle est la volonté précise de Dieu pour votre vie, quel que soit le domaine où vous êtes actuellement en recherche de sa volonté. Avant de quitter cet endroit aujourd'hui, et je mesure bien mes mots, d'accord ? Avant de quitter cet endroit ce matin, vous saurez exactement quelle est la volonté de Dieu pour vous, dans quelque domaine qu'il soit. Promis. Je promets. Alors là, John, t'es gonflé, non ? Et en plus, le bonus, c'est que vous n'allez jamais devoir lutter avec cette question encore une fois dans votre vie. Ce sera clair. Alors, comment est-ce que je peux affirmer cela ? Eh bien, écoutez, il y a 32 ans en arrière, j'étais moi-même à la recherche de la volonté de Dieu pour ma vie. Je venais de me convertir quelques années avant. Et... J'avais eu donc une conversion radicale en Inde, la plupart de vous connaissez l'histoire, après un voyage en sac à dos en Inde, j'étais à l'époque de mon époque hippie de la vie, et là j'ai rencontré le Seigneur par un missionnaire dans la rue, je suis de retour aux États-Unis et j'étais en Californie, et je me demandais ce que Dieu voulait bien pour ma vie. Et en fait, je ne savais pas si je devais devenir homme d'affaires comme mon père l'avait été, ou si je devais devenir pasteur ou missionnaire, qui me tentait beaucoup. Et j'étais tiraillé entre ces deux grandes vocations de la vie. Alors je fréquentais à l'époque une église qui s'appelle Grace Community Church, c'est l'église où il y a le pasteur John MacArthur, qui donc plus tard est devenu mon église d'envoi. Et un jour, j'étais là, dans cette église, et John MacArthur a donné un message sur la volonté de Dieu, comme je suis en train de le faire ce matin, un message qui a littéralement bouleversé ma vie. En fait, dans 36 années de vie chrétienne, ce message est le message qui a eu le plus grand impact dans ma vie. Et donc, aujourd'hui, je ne vous livre pas mon message, c'est son message. Comme je l'ai entendu, avec bien sûr à ma sauce, d'accord ? Mais vraiment, le message qui m'a le plus marqué dans toute ma vie chrétienne, et j'espère que ce sera pareil pour vous ce matin. Alors, écoutez très bien ce que je vais dire maintenant. Il y a un principe de base qu'il faut absolument comprendre pour ne pas rater, et qu'il ne faut pas rater, pour trouver la volonté de Dieu pour votre vie. La Bible explique que pour pouvoir découvrir la volonté non révélée de Dieu dans notre vie, par exemple, quelle école, quelle carrière, quel époux, quelle épouse, est-ce que je dois choisir, ça ce serait la volonté non révélée dans votre vie par Dieu directement et spécifiquement. Bien avant de découvrir cette volonté, il faut d'abord être soumis à la volonté révélée de Dieu pour notre vie, celle qui est déjà révélée dans la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Nous avons 3 enfants, et lorsque nos enfants étaient petits, nous avions une liste de tâches, c'était ce qu'on appelait les 10 commandements, et on mettait ces 10 commandements sur leur porte de leur chambre, comme ça tous les matins ils savaient ce qu'ils devaient faire quand ils se levaient, sinon on ne devait pas systématiquement répéter ce qu'il fallait faire. Et donc par exemple, ils devaient ranger leur chambre, faire leur lit, se peigner les cheveux, ça c'était un commandement parce que vous savez les enfants ils oublient des fois, d'accord ? Alors un jour notre fils aîné est venu me voir, il m'a dit « Papa, puis-je regarder des dessins animés à la télévision ?» Alors j'ai répondu, « Fils, as-tu déjà fait la liste des tâches pour la journée ?» Il m'a répondu, « Non. » Que pensez-vous était ma réponse vis-à-vis de la télé ?« Ben non, pas avant que tu aies accompli les tâches que tu devais déjà accomplir. » Voyez-vous, le principe, il est tout simple. Et c'est le même principe avec Dieu. Dieu, puis-je connaître, s'il te plaît, ta volonté pour moi par rapport à ma carrière, à mon travail, à un époux, à une épouse, à une école, pour ceci ou pour cela, quelle voiture je devrais choisir, quel ceci, quel cela, Seigneur ? Et lui répond, as-tu fait ta liste ? Lui répond, as-tu ou es-tu en train de faire ce que je t'ai déjà demandé à faire dans ma parole par rapport à ma volonté révélée ? Ben, si on répond non, ben, il va répondre, alors pourquoi est-ce que je te donnerais d'autres réponses sur les choses plus spécifiques ? C'est logique. Ainsi, mes amis, avant de découvrir ce qui est la volonté non révélée de Dieu pour votre vie, il faut être soumis à la volonté révélée de Dieu dans sa parole. Mais attention, préparez-vous pour une conclusion inattendue et totalement surprenante. La conclusion de ce que vous allez entendre pourrait changer votre vie comme elle a changé ma vie. La conclusion est époustouflante. Vraiment. Alors, avant de vous dire quelle est la volonté non révélée pour votre vie, et vous allez découvrir tout à l'heure, voyons en premier ce qu'est la volonté révélée de Dieu, clairement révélée de Dieu, et facile à trouver dans la parole de Dieu. Et c'est vrai, c'est très facile à trouver. Tout ce qu'il faut faire, c'est de prendre une concordance et vous regardez la phrase « volonté de Dieu », à peu près, « volonté, volonté de Dieu ». Et si vous prenez tous ces versets et vous les réunissez, vous allez découvrir qu'il y a en fait 6 choses qui sont clairement la volonté révélée de Dieu pour votre vie. Donc c'est ce qu'on va regarder maintenant, d'accord ? Les 6 choses qui sont déjà clairement énoncées comme étant la volonté de Dieu pour notre vie. Et ensuite, nous allons voir ce qu'est la volonté non révélée de Dieu pour notre vie. Alors ces 6 choses sont très simples, parce qu'elles commencent chacune avec un S. Ce sont les 6 S de la volonté de Dieu. Numéro 1. Numéro 1. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons sauvés. Sauvés. 2 Pierre 3:9. 2 Pierre 3:9. Pierre écrit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous. Écoutez bien. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il veut que tous arrivent à la repentance. Alors le contexte est le fait qu'il y a certaines personnes qui critiquent Dieu parce qu'on a l'impression que Dieu laisse aller le monde et que la promesse du retour de Jésus n'arrivera jamais. Faux, nous dit Pierre. Dans ce texte, il nous dit que la patience de Dieu est là et que Dieu ne veut pas précipiter le retour de son Fils parce qu'il attend que le maximum de personnes dans le monde rencontrent Jésus-Christ pour être sauvées. Voilà pourquoi il retarde sa venue et son jugement. Et donc il dit, il ne veut qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dans Jean 6:39, nous lisons ceci. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite le dernier jour. Et encore 1 Timothée 2:3, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Mon ami, écoute bien ce que je vais dire. Tu ne vas jamais, je mesure bien mes mots, jamais pouvoir découvrir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, et surtout cette volonté non révélée, si tu n'es pas sauvé. Si tu ne connais pas Christ personnellement, si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu ne pourras jamais comprendre la volonté de Dieu, parce que c'est la première chose que tu dois savoir dans sa volonté. Alors comment faire pour être sauvé ? Bien, premièrement, il faut reconnaître que tu as fauté devant Dieu, que tu es pécheur, que tu es rebelle à Dieu, que tu ne peux rien faire de toi-même par tes bonnes œuvres pour mériter quoi que ce soit de la faveur de Dieu. Non, tous ont péché et sont privés de la gloire, nous dit Romains 3:23. Et le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Tu es sous la condamnation de Dieu à cause de ton péché. Ça, tu dois le savoir. Deuxièmement, il faut reconnaître que Dieu t'aime. Il veut te pardonner car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il t'aime malgré ton péché. Troisième chose, tu dois reconnaître que Jésus-Christ, qui est nul autre que Dieu incarné, est venu prendre la condamnation de ton péché sur lui-même. Jésus est mort pour toi. Il a pris ta place à Golgotha. 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Et donc, il peut te pardonner et t'acquérir une place au ciel, dans la présence même de Dieu. Et tu dois te repentir, nous dit la Bible. Tu dois te détourner de ton mal, reconnaître ton péché. Et tu dois te tourner vers Dieu et demander à Dieu, « Dieu, pardonne-moi, je te demande pardon pour mon péché. » Et c'est à cet instant-là, par la foi, lui va te donner son pardon à cause du sang précieux de Jésus-Christ et tu vas devenir né de nouveau, tu vas devenir sauvé, sauvé de sa colère. Il va te donner instantanément la vie éternelle et tu seras réconcilié avec Dieu. Mes amis, si tu fais ça, tu seras sauvé. Deuxième chose qui est clairement la volonté de Dieu, c'est qu'il faut être saturé de l'Esprit ou rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5:17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Verset 18. Ne soyez pas enivrés de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ça, c'est intéressant. Hein, il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Vous savez ce que ça veut dire, le mot inconsidéré ? Voici ce que ça veut dire en langage moderne. Stupide, bête, idiot. Il dit, ne soyez pas stupides, bêtes et idiots, mais connaissez quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Ah bon, bah c'est quoi? Eh bien, il nous le dit au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. La volonté de Dieu, mes amis, c'est que nous soyons remplis de l'Esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, premièrement, il faut savoir que Romains 8, 9 dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Tout chrétien, au moment où il reçoit Jésus-Christ par la foi, qu'il devient sauvé, point 1, il reçoit à cet instant le Saint-Esprit comme cadeau de Dieu. Tout le Saint-Esprit rentre en lui, car si on n'a pas l'Esprit, on ne lui appartient pas. Donc forcément, on a l'Esprit à ce moment-là. Donc il n'y a pas besoin de redemander à l'Esprit de rentrer en vous si vous êtes sauvé. C'est une erreur que beaucoup de chrétiens font. Il n'y a pas besoin, il est déjà en toi. Deuxièmement, puisqu'il est en nous, Acte 1:8 nous dit que nous sommes dynamite, c'est-à-dire qu'il nous a donné une puissance, la dynamite, dynamos en grec, c'est une puissance que l'Esprit nous donne, surtout dans le témoignage. On devient vraiment puissant dans ce sens-là parce qu'on est porteur de l'Évangile. Mais alors, pour être rempli, parce qu'ici il dit qu'on doit quand même être rempli du Saint-Esprit. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'il faut céder chaque domaine de votre vie à la Seigneurie de Jésus-Christ. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous rentrez chez moi, dans ma maison, dans la porte d'entrée. Ben, quand vous rentrez dans la porte d'entrée, à droite, il y a une autre porte qui mène au salon, ensuite la cuisine, ensuite le garage, ensuite les chambres, toilettes. Imaginez que vous rentrez chez moi, toutes les portes sont fermées. Question, est-ce que vous êtes rentré dans ma maison, oui ou non? Oui. Deuxième question, avez-vous rempli ma maison? Non. Pour remplir ma maison, je dis, ok, on ouvre toutes les portes, toutes les armoires, tous les petits coins, allez vous promener, vous revenez dans 30 minutes, vous auriez tout vu. Là, vous avez rempli ma maison. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Tout chrétien a le Saint-Esprit en lui. Mais ça ne veut pas dire que toutes les portes de notre vie sont ouvertes à l'accès du Saint-Esprit. Peut-être que le Saint-Esprit est dans le hall d'entrée. Mais que faisons-nous lorsque le Saint-Esprit veut aller dans le petit placard défendu? Ah non, non, dans ce placard-là, non, non, Saint-Esprit, je ne veux pas être dérangé. Ça, c'est mon petit coin secret. Ah non, le Saint-Esprit veut rentrer. Ah non, s'il te plaît, Seigneur. Non, 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 oui. Et là, la bataille. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez cette petite bataille? Ben, lorsque vous fermez cette porte à l'accès au Saint-Esprit dans ce domaine caché de votre vie, vous n'êtes plus rempli du Saint-Esprit. Et si vous comparez Éphésiens 5 avec Colossiens 3, vous allez comprendre que d'être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire ceci. Colossiens 3, 16, que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Je vais vous dire quelque chose, vous voulez être rempli du Saint-Esprit, mes amis? Que vous puissiez boire la parole de Dieu jour après jour et laisser cette parole rentrer en vous et soumettez-vous à cette parole. Et vous allez devenir rempli du Saint-Esprit parce que la parole, le Saint-Esprit éclaire la parole qui fait le travail dans nos vies. Et on débloque toutes ces portes cachées. 3. Pour découvrir la volonté de Dieu, il faut troisièmement être sanctifié. Sanctifié. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Écoutez bien, il n'y a rien de plus clair. Ce que Dieu veut. Question, est-ce que c'est clair? Ce que Dieu veut, virgule, c'est votre sanctification. Vous dites, ouais, mais c'est quoi? Mais il explique, virgule. Il explique, regardez. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Ouais, mais ça veut dire quoi? Il faut continuer à lire, virgule. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, et là, sexuelles. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et déjà attesté, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Alors ces versets nous apprennent tout simplement que Dieu veut que nous soyons sanctifiés Et le contexte parle de la débauche sexuelle. C'est le mot « porneia » en grec, duquel nous dérivons le mot « pornographie ». Et la pornographie, c'est tout simplement toute activité sexuelle illicite. Selon le Robert, c'est l'excès condamnable dans la jouissance des plaisirs sexuels. Alors vous dites, voilà, est-ce que ça veut dire que Dieu est anti-sexe ? Mais bien sûr que non, c'est lui qui l'a inventé. Il n'est pas anti-sexe, Dieu. Il n'y a rien de plus faux. Le sexe est un don de Dieu. C'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé femme, c'est lui qui a créé les relations sexuelles pour que les hommes puissent en jouir pleinement selon son dessein. Vous dites, ouais, mais alors c'est quoi son dessein ? Ah, merci d'avoir posé la question. Son dessein se voit dans Hébreux 13, 4 qui dit ceci. Le mariage, que le mariage soit honoré de tous. Le mariage, c'est bien. Et Dieu veut que tout le monde connaisse le mariage. Et ensuite, il dit, et le lit conjugal, exemple de sûr. Donc, il dit que le lit, hein, là où la sexualité se pratique, que le lit conjugal soit exemple de sûr, qui veut dire contexte. Dans le mariage, le lit conjugal, c'est top. Mais regardez, il dit, Dieu jugera les débauchés et les adultères. L'adultère, c'est lorsqu'une personne mariée couche avec une personne autre que son mari ou sa femme, et la débauche, c'est toute autre activité sexuelle hors mariage. Donc la Bible dit que la volonté de Dieu, c'est qu'on s'abstienne de la débauche, que la sexualité soit réservée pour la relation du mariage. Alors, y a-t-il une manière claire pour éviter la débauche sexuelle ? Oui. Deux choses. Deux manières d'éviter la débauche sexuelle. Vous êtes prêts ? Un. Le mariage. En Corinthiens 7, 2. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça ne peut pas être plus clair. Voilà la volonté de Dieu. Mariage. Donc, si tu ne veux pas commettre la débauche, tu te maries. Il dit, ouais, mais attends, mais j'ai pas de mari et j'ai pas de femme, alors je fais quoi ? Bonne question. En Corinthiens 7, 8, c'est la deuxième chose qu'il faut faire pour éviter la débauche. En Corinthiens 7, 8, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Le célibataire a deux options. Premièrement, il se marie s'il peut, et s'il ne peut pas se marier pour X raisons, il doit se maîtriser. Et rester pur jusqu'à que Dieu, si dans sa grâce et sa bonté, lui donne un conjoint. Voilà l'enseignement de la Bible. Et c'est pourquoi, dans 1 Thessaloniciens 4, il dit qu'il faut apprendre à contrôler son corps. 1 Thessaloniciens 4, c'est que chacun de vous, verset 4, sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Job 31, Job, il a dit ceci, j'ai fait un pacte avec mes yeux, que je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. À un moment donné, il faut dire, ben non, je vais être pur. Et il faut maîtriser ses passions. Alors écoutez ce que je vais dire. Tu cherches la volonté de Dieu dans ta vie ? Par rapport à point A, B, C, D, E dans ma vie ? Très bien. Si tu vis dans la débauche, si tu n'es pas sanctifié, oublie. Tu ne vas jamais comprendre la volonté de Dieu pour ta vie, parce que tout va être complètement tordu. C'est sa volonté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et je veux dire quelque chose, mes amis. Si vous faites ça, si vous obéissez, Dieu va vous bénir. Bénir comme vous ne l'avez jamais imaginé. Alors je sais que ce n'est pas très populaire aujourd'hui, mais c'est une bénédiction de Dieu. Quatre. On est en train de découvrir la volonté de Dieu révélée pour notre vie. D'accord ? Numéro 1, il faut être sauvé. 2, saturé de l'esprit. 3, sanctifié. 4, il faut être soumis. 1 Pierre 2, 13. De nouveau, moi ce que j'aime avec la Bible, c'est tellement clair, d'accord ? 1 Pierre 2, 13, soyez soumis à cause du Seigneur. Ça veut dire à cause de la volonté du Seigneur. C'est ce qu'il veut, d'accord? Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu. En pratiquant le bien, etc. Donc, voyez-vous, Dieu veut que nous soyons soumis aux autorités que Dieu a placées au-dessus de nous. Alors, de quelle autorité parle-t-il? Bien, premièrement, les autorités gouvernementales, on vient de le voir. Chrétiens, nous devrions être l'exemple de la soumission aux autorités au-dessus de nous. Vous dites, ouais, mais ils sont tous corrompus. Ben, écoutez mes messages sur l'autorité, on vient d'en faire un dans Romains 13, d'accord? Nous sommes même obligés de nous soumettre aux autorités que nous pourrions percevoir comme étant corrompues, à moins qu'ils nous demandent explicitement de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu exprimée dans les Écritures. Là, on aurait le droit de désobéir et payer les conséquences, bien sûr. Donc, nous devons nous soumettre aux autorités gouvernementales. Un chrétien devrait être un citoyen exemplaire. Il ne devrait jamais être puni en tant que malfaiteur, contexte du texte que je viens de lire. Deuxièmement, on devrait être aussi soumis aux autorités de la famille. Peut-être, je m'adresse un petit peu plus aux jeunes maintenant. Si vous êtes enfant, vous vivez à la maison, vous êtes encore sous, disons, la tutelle de vos parents, écoutez ce que la Bible nous dit, Éphésiens 6, 1. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Oui, nous devons nous soumettre. Non, nous devons obéir. Enfant, écoute bien, tu es encore à la maison. Ton devoir devant Dieu, c'est d'obéir à tes parents, point à la ligne. Ouh, mais ce n'est pas populaire. Je ne parle pas de la popularité, je parle de la volonté de Dieu. Obéis à tes parents. Ouais, mais ils sont injustes. Obéis à tes parents. Eux doivent rendre des comptes à Dieu pour leur injustice, peut-être. Donc, on obéit aux autorités gouvernementales, deuxièmement aux autorités de la famille, troisièmement, aux autorités de l'Église, aussi intéressant, Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs », donc contexte de l'Église, « Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, qu'ils ne vous auraient d'aucun avantage. » Intéressant, la Bible, elle est très claire, que nous devons obéir à nos conducteurs spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils veillent sur nos âmes. C'est-à-dire, mettez-vous dans la place d'un conducteur spirituel où il doit rendre des comptes à Dieu pour votre âme. On est trois anciens dans l'Église, j'y pense constamment à ça. Je vais devoir répondre à Dieu pour vos âmes si vous faites partie de cette Église. En Pierre 5,5. De même, vous qui êtes jeunes, parce que plus on est jeune, apparemment, plus on a de problèmes avec ce genre de choses, d'accord? Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. C'est clair? Waouh! Hein, nous vivons dans une époque où les jeunes deviennent de plus en plus rebelles. Hein, ils veulent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, avec qui ils veulent, où ils veulent. Ils n'ont pas trop envie de se soumettre à qui que ce soit. C'est intéressant, donc en 1 Samuel 15, 23, on lit « Voici la rébellion est aussi coupable que la divination. » Moi, je me rappelle dans le passé où certaines personnes, parfois, pour une question qui n'a rien à voir avec l'Église, mais disons pour un travail, quelque chose, il y a des gens qui se sont déjà me demandés conseil. Je me dis « Pourquoi tu me demandes conseil là-dessus ?»« Ouais, parce que la Bible nous dit qu'on devrait se soumettre à toi. » Alors là, je suis vraiment prudent, quoi, parce que moi, je ne veux surtout pas m'immiscer dans la vie privée des gens. Vous voyez, ce n'est pas du tout notre rôle. Mais j'ai trouvé l'attitude vraiment belle. Quelqu'un qui voulait vraiment honorer ses textes. Donc voilà, on doit être soumis. Soumis aux autorités que Dieu a mis et placées au-dessus de nous, gouvernementales, famille, église. Alors écoutez, tu cherches la volonté de Dieu dans un autre domaine de ta vie, mais tu es un rebelle. Tu ne te soumets pas à ces autorités, oublie. Oublie. Pourquoi est-ce que Dieu te répondrait? 5. 5. Il faut être sauvé, saturé de l'esprit, sanctifié, soumis. 5, souffrant. Souffrant. 1 Pierre 4, 19. 1 Pierre 4, 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Certes, tout le monde ne souffre pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ce que je viens de dire. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que 2 Timothée 3.12 nous le dit le contraire. Donc je me contredis, mais regardez. Il faut toujours se référer aux Écritures, mes amis. 2 Timothée 3.16, pas 2 Timothée 3.16, c'est plutôt 2 Timothée 3.12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je répète. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mes amis, un chrétien sauvé, un chrétien rempli du Saint-Esprit, un chrétien sanctifié, un chrétien soumis, va avoir une vie telle que tôt ou tard, sa vie va se heurter contre les mœurs de la société et il sera persécuté. Vous voyez, mais est-ce qu'on va me tuer ? Alors il faut comprendre ce qu'est la persécution. Jésus en parle dans Matthieu 5, il dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Verset 11 dans Matthieu 5 « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » On peut être persécuté en parole aussi, mes amis. On peut se moquer de nous. Il y a des gens qui ont perdu leur travail dans les pays occidentaux pour avoir été chrétiens et ne vouloir pas compromettre avec la vérité. Vous dites, ouais, mais Dieu, moi je suis chrétien et je n'ai jamais été persécuté. Alors moi je te pose une question. Est-ce que tu vis pieusement pour Jésus-Christ ? C'est ça la question. Parce qu'il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si tu vis pieusement, si ta vie est consacrée à Christ, si tu vis pour Christ, tôt ou tard, ta vie, tac, elle sera en opposition avec le monde et on te critiquera. Donc si tu n'es jamais critiqué, pose la question, ben, est-ce que ma vie est en règle ? Ou est-ce que ma vie est tellement compromis que finalement les gens me regardent et moi, je ne suis pas du tout différent que les gens autour de moi. Donc si je ne suis pas souffrant, est-ce que je suis en train de vivre la volonté de Dieu pour ma vie ? C'est intéressant quand même, je trouve. Et sixième chose qui est la volonté révélée de Dieu, sauvé, saturé de l'esprit, sanctifié, soumis, souffrant, et sixièmement, sans cesse en train de rendre grâce. Sans cesse en train de rendre grâce. 1 Thessaloniciens 5:18. Regardez ce verset tellement beau. Rendez grâce en toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je répète. Rendez grâce en toute chose. Toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Un des tests les plus efficaces pour savoir si tu marches bien avec le Seigneur, c'est le fait que tu puisses remercier Dieu pour toutes choses, même celles qui te paraissent mauvaises, même celles qui vont à l'encontre de ta logique ou de ce que tu veux. Tu le bénis parce que tu sais que Dieu contrôle les événements de la vie, même ceux qui paraissent mal à tes yeux. Je sais que Dieu est souverain dans ma vie, donc je choisis de le bénir et de le remercier. Et là, on peut, je pense, vraiment utiliser Romains 8, 28, qui dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Ça veut dire que quand je suis dans l'épreuve, je peux le bénir. Pourquoi ? Parce que l'épreuve me façonne à l'image de Christ. Je viens de plus en plus comme Christ. Quand je suis pressé comme un citron, et là je bénis Dieu parce que je sais qu'il est en train, comme une sculpture, de me sculpter à son image. Et donc, je le bénis. Et un chrétien, mes amis, devrait être joyeux. Alors, bien sûr, il y a des épreuves difficiles dans la vie, d'accord ? Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait être superficiellement joyeux. Il y a des moments très difficiles. Mais, en même temps, Dieu est souverain. Et donc, on est sans cesse en train de rendre grâce. Alors, mes amis, vous venez de découvrir quelle est la volonté de Dieu révélée pour votre vie. résumé en 6 points. Il faut numéro 1 être sauvé. 2, il faut être saturé de l'esprit. 3, il faut être sanctifié. 4, il faut être soumis. 5, il faut être souffrant. 6, il faut être sans cesse en train de rendre grâce. Là, vous dites, alors John, je suis vraiment déçu. Là, je suis vraiment déçu. Non, mais tu as bien dit qu'on allait découvrir quelle était la volonté de Dieu pour notre vie, dans tous les domaines. Est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai promis que vous allez découvrir? Oui. John, tu allais me dire aujourd'hui, avant la fin de ce message, quelle décision je devais prendre pour mon travail, ou pour mes études, ou pour un époux, ou pour une épouse. Et tu ne l'as pas fait. Mais est-ce que j'ai terminé mon message? Bon. Allez, je vous donne le dernier principe maintenant. Mais alors, tenez-vous sur vos chaises. Car quand je vous donne ce dernier principe, vous allez peut-être vouloir sauter, danser, crier. Allez, c'est autorisé aujourd'hui, d'accord? C'est autorisé. Juste, pas de problème. Alors, tenez-vous bien, je vous donne le principe. Si vous êtes en train de faire ces 6 choses, si vous êtes sauvé, si vous êtes saturé de l'esprit, si vous êtes sanctifié, si vous êtes soumis, si vous êtes souffrant, si vous êtes sans cesse en train de rendre grâce, alors savez-vous quel est le prochain principe pour connaître la volonté de Dieu dans tous les autres domaines? Le voici. Faites exactement ce que vous avez envie de faire. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Vous faites tout ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que tu veux faire. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Parce que mes amis, si vous êtes en train de faire ces 6 choses, devinez qui est en train de diriger votre vie. C'est Dieu qui la dirige. C'est Dieu qui la dirige. Et si Dieu dirige ta vie, alors là, alors tout le monde, prenez vos Bibles et allez avec moi au psaume 37,4. Si Dieu dirige ta vie, regardez ce que le psaume 37,4 dit. C'est incroyable. Regarde. Psaume 37 et le verset 4. Le psalmiste dit: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Je répète: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Désir. Si vous faites ces 6 choses, vous êtes en train de faire de l'Éternel votre délice. Et là, vous pouvez commencer à suivre avec prudence les désirs de votre cœur. Est-ce que vous savez pourquoi je suis pasteur aujourd'hui et missionnaire? Devinez. Ben parce que j'avais envie d'être pasteur et missionnaire. Tout aussi simple que ça. Je voulais vraiment être pasteur, je voulais être missionnaire, et j'ai fait ce que je voulais faire. Savez-vous pourquoi je suis pasteur et missionnaire à Genève? Et pourquoi pas à Dijon, ou à Madrid, ou à quelque part d'autre? Ben parce que je voulais venir à Genève. Voilà, c'est simple que ça, j'avais vraiment envie de venir à Genève. Alors bien sûr, ça a pris beaucoup d'années pour réaliser ce rêve, mais ça on y reviendra dans quelques instants. Allez, encore une question. Savez-vous pourquoi j'ai épousé ma charmante et merveilleuse épouse? Ben parce que je voulais l'épouser. C'est aussi simple que ça. Je l'ai rencontrée, je me suis dit, ah, elle est trop super, merci Seigneur, une femme de Dieu. Alors bien sûr, elle a dû avoir la même révélation de Dieu par rapport à moi, on est d'accord. Hein? Mais moi j'avais vraiment envie de l'épouser et Dieu a permis qu'on se marie. Et c'était vraiment quelque chose de génial. Et le 8 janvier, on va célébrer 30 ans de mariage. Mes amis, écoutez, pendant toute ma vie chrétienne, j'ai suivi ces principes. J'ai suivi le principe du psaume 37,4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Pour tous les choix de ma vie, petits et grands, pour toutes les décisions petites ou importantes de ma vie, j'ai essayé de faire de l'Éternel mes délices, j'ai essayé d'appliquer de mieux que je pouvais ces 6 principes, et ensuite, avec prudence, j'ai suivi le désir de mon cœur. Alors écoutez, vraiment bien ce que je vais dire maintenant. Si vous ratez ça, vous avez raté le message. Écoutez bien. En revanche, si vous suivez les désirs de votre cœur sans être soumis à ces 6 points, alors attention, vous êtes voué à l'échec. Car les désirs de votre cœur ne sont pas forcément de Dieu. Et ça peut mener à un naufrage pur et simple d'une vie. Beaucoup de gens se font des idées comme quoi ce qu'ils ressentent est de Dieu. Comment filtrer ce que je ressens est de Dieu ou pas? Là. Et beaucoup de chrétiens se trompent là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la majorité du temps sur ces points-là. C'est la clé. Et ensuite, avec prudence, je choisis bien le mot, avec prudence, je commence à choisir les désirs de mon cœur. Alors maintenant, ça mène à la deuxième partie de ce message. Il y a des principes pour savoir comment gérer le désir de nos cœurs. D'accord? Alors vous dites, bon, John, alors moi j'ai suivi ces 6 points. Je crois que c'est bon. Là, j'ai vraiment envie de faire telle ou telle chose. J'applique le psaume 37,4, fais de l'éternel tes délices, écoute Seigneur, ouais, je crois, c'est vraiment, je crois que c'est ok là. Ok, ben il te donnera ce que ton cœur désire, Seigneur, voilà. Maintenant, je vais suivre le désir de mon cœur avec prudence. Ok, y a-t-il des principes avant de se lancer par rapport à ce désir? Oui. Je vais vous donner 10 principes rapides. 10 principes sur comment gérer votre désir. D'accord? Ils sont très importants. Alors, notez-les. Numéro 1. Il faut constamment réviser les 6 points sur la volonté révélée de Dieu. Nous sommes faibles de nature. Oui, nous sommes régénérés en Christ, mais j'ai encore ma chair qui me colle à la peau. Ma chair me fait des numéros des fois. Donc, je dois avant toute décision réviser ces 6 points. Ils sont faciles à retenir, ils commencent tous avec S. Ils sont mémorisés. D'accord? Il faut constamment réviser les vérités de Dieu afin qu'ils deviennent gravés dans nos cœurs. Dans 2 Pierre 1,12, voilà pourquoi je prendrai soin, nous dit Pierre, de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans ces temps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Donc Pierre dit, écoute, je ne me lasserai jamais de vous répéter les mêmes choses. C'est ce que le prédicateur, il fait finalement. Vous n'avez pas remarqué? Il répète, bon, de manière différente, mais il répète. Réviser, répéter ces 6 points constamment avant de prendre des décisions dans votre vie. 2. Il faut se rappeler que Dieu ne nous donne pas toujours les désirs de nos cœurs, même si nous faisons de lui nos délices. Très important, d'accord? Alors c'est un principe, c'est pas une promesse, c'est un principe, mais Dieu contrôle même les circonstances de la vie. Écoutez le Proverbe 16,9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Oui, j'ai un désir, mais le Seigneur a le droit de rediriger mes pas. Le Proverbe 19,21 nous dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Oui, regarde tous mes désirs, Seigneur, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Dieu a le dernier mot dans une vie. Et il y a de très beaux exemples dans la Bible. Je ne sais pas si vous saviez, mais dans Romains 15, Paul y dit, au verset 24, « J'espère vous voir », donc il écrit, il écrit à l'église de Rome, il dit, « J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous. » Donc il dit, voilà, je suis en train de partir en Espagne et j'espère vous voir bientôt en y allant. Et il répète au verset 28, « Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur ai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. » Question, est-ce que Paul est allé en Espagne? Non. Sympa, non? Il voulait y aller, mais il n'y est pas allé. Donc, on voit très bien ici que Dieu peut rediriger les pas. Dans Actes 16 aussi, on y reviendra tout à l'heure, mais dans Actes 16, Paul voulait aller en premier. Vous vous rappelez, en Asie, verset 6, il était empêché par l'Esprit d'aller en Asie. Ensuite, il voulait aller en Bithynie, verset 7, mais de nouveau, l'Esprit de Jésus ne lui a pas permis, et finalement, il est allé en Macédoine. Donc Paul, plusieurs fois, il avait le désir, bon c'est un homme de Dieu, il a écrit la plupart du Nouveau Testament, je pense qu'il était quand même probablement assez clair sur ces 6 points. Il avait des désirs qui étaient clairement, on peut dire, dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas mauvais, mais Dieu a redirigé ses pas. Moi, j'ai toujours rêvé de revenir à Genève. Moi, j'ai grandi à Genève 15 ans, je suis parti aux États-Unis faire mes études, je me suis converti, et je voulais revenir à Genève. Dieu a dit oui, mais j'ai en premier été à Paris pendant 10 ans. Je voulais pas aller à Paris. J'ai accepté. C'était très bien, super beau ministère. Mais Dieu, par sa grâce, m'a amené à Genève 10 ans plus tard. Ben voilà. Je crois que c'est un petit peu ici le principe. Dieu nous donne pas de la manière qu'on aimerait peut-être avoir le désir de nos cœurs, ou parfois pas du tout, ou parfois différemment. Au fait, lorsque nous prions et Dieu répond, comment est-ce qu'il répond aux prières? Ou bien oui, ou bien non, ou bien plus tard, ou bien plus que ce qu'on a demandé. Dieu a le dernier mot. 3. Il faut constamment être en train de chercher la sagesse de Dieu dans les Écritures. Écoutez, mes amis, notre être doit être baigné dans l'Écriture pour avoir la pensée de Dieu. Si vous êtes peu dans l'Écriture, vous allez avoir peu la pensée de Dieu. Colossiens 3:16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. J'espère que vous avez un plan de lecture de la Bible. Moi, pendant les années, je me suis dit, au tout début de ma conversion, moi, je vais lire la Bible une fois par an. Et donc, ça, c'est ce que je fais depuis des années, des années, des années. Puis ensuite, il y a quelques années en arrière, Meg et moi, on a trouvé un nouveau système qu'on est en train de faire maintenant. C'est un système où il nous demande de lire 10 chapitres par jour, avec dans les lits différents. C'est une nouvelle technique. Alors moi, en fait, je fais 5 chapitres par jour, elle 10 chapitres par jour. Mais donc, je fais beaucoup plus que je disais avant, presque 2 fois. Donc, en fait, je lis environ maintenant 2 fois la Bible par an, peut-être un peu moins. Voilà. Et vous? Et vous? Est-ce que vous avez un plan de lecture régulier? Est-ce que vous vous gavez de la parole de Dieu? Nous devons, mes amis, nous devons avoir la pensée de Dieu. Et si on est peu dans la parole de Dieu, on va peu comprendre la volonté de Dieu pour notre vie. Est-ce que vous profitez de ce que nous donnons? Il y a des cours de théologie, il y a des cours de principaux fondamentaux de la foi, il y a les groupes de maison, nous étudions en Corinthiens, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous profitez de ces choses? J'espère que oui. 4. Il faut considérer ses dons spirituels et ses compétences face à nos désirs. Vous dites, ah, John, écoute, j'ai révisé les 6 points. Là, j'ai vraiment un désir, mais vraiment un désir fort, fort, fort. J'applique le psaume 37,4. Fais du Seigneur de tes délices et le tête donnera le désir de ton cœur. Écoute, John, je veux vraiment être chirurgien. Super. Oui, mais j'ai un problème. Ah ouais, lequel? J'ai la tremblote. Et j'arrive pas à arrêter de trembler. Alors, j'ai un petit peu peur que si je vais faire de la chirurgie du cœur, que ça risque de poser un problème. Fais pas la chirurgie, d'accord? Voilà, c'est tout bête comme exemple, mais il faut que nos dons spirituels ou naturels collent avec nos désirs. Et c'est d'habitude pour ça que les gens font de la formation. On se forme pour être sûr qu'on est compétent dans ce qu'on a envie de faire. Dans Acte 13, verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, etc., inclus Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est intéressant que Paul est en train de servir dans l'église, dans son ministère, et il servait, il est en train de travailler, peaufiner ses dons, et au bon moment, le Saint-Esprit a dit « Je veux l'utiliser. » Est-ce que tu es en train d'être formé dans les domaines où tu as le plus grand désir? Il faut avoir les compétences pour. 5. Il faut consulter les personnes clés dans votre vie afin de recevoir d'eux de bons conseils. Écoutez, c'est très important. Nous devons avoir des amis, mais vraiment des amis qui nous conseillent, qui nous connaissent. Proverbe 24:6. Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Nous devons nous entourer de conseillers, des hommes et des femmes de Dieu qui peuvent vraiment nous aider. Proverbe 15:22, il dit exactement la même chose. Pourquoi? Parce que bien que nous suivons nos désirs dans notre cœur, Jésus a dit que dans notre cœur, il y a des choses qui ne sont pas très belles dans Matthieu 15. Et donc, on peut parfois se tromper dans la lecture de notre cœur. Alors, à qui faut-il demander? On l'a déjà vu tout à l'heure, aux anciens peut-être, surtout pour les décisions spirituelles. Hébreux 13:17. Obéissez à vos conducteurs. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a 30 ans en arrière, quand je suis sorti de la fac de théologie, j'ai décidé que j'allais choisir un homme de Dieu que je respectais pour qu'il devienne mon mentor. Et mon mentor, c'est quelqu'un qui m'aide. Et ça fait 30 ans qu'il m'aide. Il s'appelle Irv Busness. Certains de vous l'avez déjà rencontré, un homme vraiment de Dieu. Et encore aujourd'hui, ça fait 25 ans que je suis pasteur, je l'appelle régulièrement pour des conseils. Aide-moi. Moi, j'ai besoin de conseils, mes amis. Et vous aussi, vous avez besoin de conseils. Vos amis chrétiens, ceux qui sont sages, il faut demander leur avis aussi. Proverbe 27, 9. L'huile et le parfum réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Mais ne vous entourez pas que d'amis qui vont vous dire oui à tout. Un vrai ami, c'est celui qui te regarde et dit « Quoi, tu veux être missionnaire ? Mais t'es malade, c'est pas du tout ton truc, quoi, tu vois ?» Il faut des amis honnêtes et francs avec vous. Vos parents, nous sommes appelés à honorer nos parents. Exode 22, Éphésiens 6, 13. Moi, avant que je suive mon père, il ne s'est jamais converti, mon père. Et avant de devenir pasteur, j'ai appelé mon père un jour, qui vivait dans la débauche. Et j'ai dit, papa, j'ai envie d'être pasteur, qu'est-ce que tu penses? Il a dit, vas-y, mon fils. Et vous savez pas ce que ça fait pour moi? Je dis, voilà, j'ai l'approbation de mon père qui est irrégénéré d'être pasteur. C'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Demandez à vos parents leur avis. Et n'oubliez pas de demander aussi l'avis de votre conjoint. Je connais trop de missionnaires qui sont partis et leur conjoint était 3 kilomètres derrière. Pas vraiment consulté comme ils auraient dû être consultés. Non, nous devons être un avec notre conjoint. N'oubliez pas de demander son avis parce que votre conjoint vous connaît mieux que tout autre, sauf Dieu. 6. Priez et jeûnez s'il le faut. Priez et jeûnez s'il le faut. C'est ce qu'il faisait avant que Paul soit envoyé comme missionnaire dans Actes 13. C'est ce qu'il faisait. Il disait, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, Actes 13, 2. Mais oui, le jeûne, c'est biblique. Priez et jeûnez s'il le faut. Pour intensifier ce moment et dire, Seigneur, je ne veux pas me tromper. Et entourez-vous de personnes qui vont prier pour vous aussi. 7. Avancez. Est-ce que vous avez déjà essayé de tourner une voiture qui ne bouge pas? C'est compliqué. Surtout s'il n'a pas la direction assistée. Mais si vous avancez un peu, c'est tout simple de tourner une voiture. Voilà. Ben, voilà le principe chrétien. Vous pensez sur la bonne voie, vous avez appliqué tous ces trucs, commencez à avancer, avec prudence, lentement, et Dieu va vous rediriger. Mais si vous êtes là, vous dites, Dieu, montre-moi A, B, C, D, vous êtes paralysé, vous ne pouvez rien faire. Mais il dirige une voiture qui bouge, donc avancez, prenez la meilleure option après tous ces conseils, et vous avancez. Il va vous rediriger. Et c'est ce que Paul a fait dans Actes 16. Dans Actes 16, il est allé en Bithynie, cloc, Asie, cloc. Et ensuite, Dieu l'a redirigé en Macédoine. Mais il a bougé. Il a avancé. 8. Ne vous battez pas trop contre les circonstances. Encore Paul, je reprends Paul dans Actes 16, 6 et 10. Vous dites, ça c'est vraiment mon... Moi, je connaissais un missionnaire. Il se sentait appelé, il a fait tout ça juste. Il voulait partir en tant que missionnaire en Afrique. Il n'a jamais pu trouver son soutien. Pendant 4 ans, il a cherché un soutien financier. Il ne l'a jamais trouvé. Et finalement, il a conclu, ça ne va pas être du Seigneur. Dieu a redirigé cet homme. Il n'est jamais parti. Il est resté aux États-Unis en tant que pasteur, mais jamais en tant que missionnaire. Parfois, il y a des circonstances qui font que on les accepte. Ok, Seigneur, je crois avoir fait ce que je devais faire maintenant. Je permets que tu aies le dernier mot sur les circonstances de ma vie. 9. Rendez grâce à Dieu quoi qu'il arrive. On a vu dans 1 Thessaloniciens 5, 18, « En toutes choses, rendez grâce à Dieu, car c'est la volonté de Dieu à votre égard. » Voilà, on applique toutes ces choses et ensuite on dit « Seigneur, merci. » Merci. Pourquoi est-ce que c'est important de toujours le remercier? Parce qu'on est en train de dire « Seigneur, tu es souverain, je te bénirai quoi qu'il arrive. » Quoi qu'il arrive, tu es Dieu. Moi, je veux que ta volonté. Si je veux ma volonté, je vais me planter. Seigneur, je veux ta volonté. Donc, je te bénis et je te remercie pour quoi qu'il arrive. Et dernière chose, dernier principe, rappelez-vous que Dieu veut vous utiliser là où vous êtes déjà. Le problème avec la volonté de Dieu, c'est que certains se disent, « Bon, Dieu veut que je fasse telle et telle chose peut-être un jour. » Et donc, je ne fais plus rien jusqu'à que peut-être Dieu me donne ça. Et vous êtes paralysé. Et là, vous êtes dans la réflexion constante. Non. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il le fasse en vous, ce qui est agréable par Jésus-Christ auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il veut que tu sois utile maintenant. Donc, si tu te poses une question par rapport à l'avenir A, B, C, D, applique ces principes et commence à servir maintenant. Parce que Dieu veut t'utiliser maintenant. Et peut-être plus tard aussi, certainement. Et là, si vous faites tout ça, mes amis, vous dites, waouh! Alors, est-ce que je peux vraiment maintenant appliquer le psaume 37,4? Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, mes amis, est-ce que j'ai tenu ma promesse? Trop génial ce message, vous n'êtes pas d'accord? Écoutez, quand j'ai entendu ce message, mes amis, ça m'a libéré. J'étais libéré. Complètement libéré par rapport à ma vie. Avec prudence, avec point très très précis, je peux commencer à suivre les désirs de mon cœur. Si vous aimeriez un livre sur le sujet, c'est le livre de John MacArthur qui s'appelle en français « J'ai trouvé la volonté de Dieu ». Je crois qu'il est dit. Ben, je crois que c'est la maison de la Bible. Non, je crois que c'est... éditeur de littérature biblique. Très très bien. Mais vous pouvez l'acheter à la maison de la Bible. Et ça vous fait une révision du message presque mot pour mot. Mais il pourra peut-être vous aider. D'accord? Donc maintenant qu'on a tous compris quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, on va tous se lever et on va remercier le Seigneur pour toutes ses grâces dans notre vie.